Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte attirée du média suivant. La presse. Au programme, de l'inclusion à l'appartenance. Une coulée toxique, un désastre annoncé et un système d'intelligence artificielle qui résonne un peu comme un humain. Bonne écoute.
De l'inclusion à l'appartenance. Un texte de Jennifer Miller, paru le 16 mai 2023 dans la presse. Woodward est une entreprise aérospatiale vieille de 153 ans. Jusque dans les années 1990, le code vestimentaire masculin obligeait le port du nœud papillon. Paul Benson, le directeur des ressources humaines, savait que la création d'un programme de diversité, équité et inclusion, DEI, serait un gros changement. Regardez notre organigramme. À la direction, nous sommes tous des hommes mûrs, blancs comme neige, a-t-il déclaré. Mais les employés souhaitaient un environnement plus inclusif. Les gens veulent se sentir à leur place, a poursuivi M. Benson. Ils veulent venir travailler sans ressentir qu'ils doivent s'effacer à la porte. L'été dernier, M. Benson s'est mis à la recherche d'un consultant en diversité. Il espérait trouver un ancien cadre qui aurait vu la lumière. Au lieu de cela, Google l'a mené à une comédienne et ancienne personnalité des médias, Carit Foster, qui est noire. Elle est PDG d'Inversity Solutions, un cabinet conseil qui repense les programmes de diversité traditionnels. Madame Foster dit que les entreprises doivent gérer le racisme, le sexisme, l'homophobie et l'antisémitisme au bureau. Mais accorder trop d'importance aux groupes identitaires et réduire les gens à un rôle de victime ou de méchant aliène tout le monde, même les employés de couleur, dit-elle. Son approche permet à chacun de faire des erreurs, de dire parfois ce qu'il ne faut pas et de pouvoir se corriger. M. Benson a été convaincu. Il a engagé Mme Foster, qui a prononcé le discours inaugural du sommet de la direction de Woodward en octobre. Elle a demandé aux participants de fermer les yeux et de lever la main en réponse à une série de questions provocantes. Ont-ils déjà verrouillé leur voiture au passage d'un homme noir? Ont-ils déjà pensé « Oui, les Juifs ont vraiment le tour avec l'argent? » Ont-ils déjà mis en doute l'intelligence d'une personne ayant un fort accent du Sud? Les gens ont levé la main timidement, voire avec crainte. À la fin, presque toutes les mains, même celles de Foster, étaient levées. « Félicitations, vous êtes des êtres humains certifiés », a-t-elle lancé. « L'idée n'est pas d'avoir raison ou tort, mais d'être alerte lorsque nos préjugés entrent en jeu. » M. Benson était soulagé. « Au début, mon voisin de table avait les bras croisés », se souvient-il. Son langage corporel disait que ce gars-là n'embarquait pas. À mi-parcours, il riait et applaudissait. Selon lui, Mme Foster a aidé les gens à être à l'aise avec leur vécu, à se dire qu'ils n'ont peut-être pas milité dans le passé, mais à être ouverts à la façon dont ils peuvent contribuer désormais. Bref, elle les a aidés à sentir qu'ils avaient leur place dans la conversation. Depuis peu, aux États-Unis, l'appartenance est le dernier concept à la mode dans le monde en évolution des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion des entreprises. L'intérêt pour la création de lieux de travail plus inclusifs a explosé après le meurtre de George Floyd en 2020. De nombreuses entreprises ont investi de l'énergie dans la lutte contre le racisme systémique et les déséquilibres de pouvoir, des éléments qui expliqueraient pourquoi les conseils d'administration sont composés de blancs et que les employés de couleur se sont sentis exclus de la vie professionnelle. Aujourd'hui, près de 3 ans après ce moment, certaines entreprises se sont engagées dans la lutte contre le racisme systémique et les déséquilibres de pouvoir. Certaines entreprises américaines modifient leur approche de la DEI, allant même jusqu'à renommer leur département pour y inclure le terme « appartenance ». C'est l'ère de la DEI-A. Certains s'inquiètent qu'on veuille mettre les Blancs à l'aise plutôt que de s'attaquer à l'inégalité systémique, ou que cela permette simplement aux entreprises de donner la priorité à la bonne entente plutôt qu'aux changements nécessaires. L'appartenance est un moyen d'aider les personnes qui ne sont pas marginalisées à sentir qu'elles font partie de la conversation, a expliqué Stéphanie Creery, professeure adjointe de gestion à la Wharton School, qui étudie les stratégies d'entreprise en matière de diversité et d'inclusion. Elle croit qu'une focalisation abstraite sur l'appartenance permet aux entreprises d'éviter des conversations difficiles sur le pouvoir et la résistance que ces conversations génèrent souvent. Le problème est que nous sommes en train de créer de nouveaux termes comme l'appartenance pour gérer cette résistance, a indiqué Mme Creery. Mme Foster soutient qu'en pratique, il n'y aura pas d'équité si les personnes au pouvoir, l'homme blanc hétérosexuel, se sentent exclus de la conversation. Les personnes que les praticiens traditionnels de la DEI souhaitent le plus inscrire sont celles qu'ils isolent et qu'ils ostracisent vraiment, a-t-elle affirmé. Vous écoutez « De l'inclusion à l'appartenance », un texte de Jennifer Miller, paru le 16 mai 2023 dans la presse. D'où viennent les valeurs? L'obsession de l'appartenance est le résultat d'une norme d'entreprise aujourd'hui largement répandue. Soyez vous-même au travail. Si vous avez la possibilité de travailler où vous voulez et la liberté de discuter des questions sociales et politiques qui vous tiennent à cœur, vous aurez le sentiment d'appartenir à votre entreprise. L'idée d'être soi-même au travail est apparue avant la pandémie, mais elle est devenue une sorte de mandat au plus fort de la crise, alors que les entreprises tentaient d'endiguer une vague de démissions. Elle répondait également à la crainte que de nombreuses personnes se sentent exclues sur le lieu de travail. Selon un rapport publié en 2022 par le groupe de réflexion COCAL, près de la moitié des professionnels noirs et asiatiques titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur ne ressentent pas de sentiment d'appartenance au travail. L'année dernière, la Society for Human Resource Management a mené sa première enquête sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise. 76% des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation accordait la priorité au sentiment d'appartenance dans le cadre de sa stratégie de DEI, et 64% ont indiqué qu'elle prévoyait investir davantage dans des initiatives d'appartenance cette année. Les personnes interrogées ont déclaré que les communautés fondées sur l'identité, telles que les groupes de ressources pour les employés, contribuait à favoriser l'appartenance alors que la formation obligatoire à la diversité n'y contribuait pas. Jonathan Haidt, psychologue social et professeur à la Stern School of Business de l'Université de New York, aimerait que nous n'ayons pas cette conversation sur l'identité et l'appartenance. À une époque où la polarisation politique s'accentue, l'identité de nombreuses personnes ne correspond pas à celle de leurs collègues, a déclaré M. Haidt, qui se décrit comme centriste. J'ai entendu de nombreux gestionnaires dire qu'ils n'en pouvaient plus, ils n'en peuvent plus de ce conflit permanent autour de l'identité des gens, indique Jonathan Haidt. En 2017, avec une collègue, Caroline Mail, il a lancé le Constructive Dialogue Institute, CDI, dont le principal produit est une plateforme éducative appelée Perspective. Cet outil utilise des modules et des ateliers en ligne pour aider les utilisateurs à explorer l'origine de leurs valeurs et les raisons pour lesquelles des personnes d'horizons différentes peuvent avoir des valeurs opposées. En 2019, le CDI a commencé à attribuer des licences d'utilisation de perspectives aux entreprises. Les frais annuels sont de $50 à $150 par employé. Les entreprises peuvent également réserver un menu d'options de formation en direct pour $3 500 à $15 000 pour une journée complète. À Legis Global Solutions, une entreprise de solutions de main-d'œuvre comptant 3 500 employés a été l'une des premières à adopter Perspective. La plateforme a déjà aidé l'entreprise à naviguer dans des situations politiques complexes. En juin dernier, Shakara Worrell, coordonnatrice des ressources humaines âgée de 26 ans, était en réunion lorsqu'elle a appris que la Cour suprême avait annulé l'arrêt Roe v. Wade. Toute la réunion s'est arrêtée, raconte Shakara Worrell. C'est alors que j'ai constaté que je n'étais pas la seule à avoir eu le cœur brisé. Madame Worrell, qui est métisse, explique qu'elle s'est jointe à Allegis en partie parce que l'entreprise accordait la priorité au sentiment d'appartenance. Elle se souvient d'avoir lu des informations sur les brutalités policières dans son emploi précédent et d'avoir eu l'impression de devoir étouffer ses sentiments. « Je me souviens d'être restée assise dans mon bureau et de ne pas avoir pu exprimer mon opinion », a déclaré Madame Worrell. Elle se souvient d'avoir pensé « Je ne suis pas vraiment à ma place ». Ce n'est pas le cas à Allegis. Madame Worrell y est l'une des responsables d'Elevate, le groupe de ressources des employés de l'entreprise pour l'autonomisation des femmes. Après la décision de la Cour suprême, ses collègues et elle ont décidé d'organiser une série d'événements pour aider les employés à digérer la décision. Lorsqu'ils ont informé les équipes des ressources humaines et de la DEI, ils ont été orientés vers Perspective. Peu importe qu'ils soient pour ou contre, nous voulions que nos employés se sentent bien et qu'ils soient bien, a déclaré Mme Worrell. Et c'est le cas? Selon Allegis, environ 200 personnes ont assisté à la première réunion qui s'est tenue virtuellement. Après la réunion, Mme Worrell a pris contact avec le seul participant qui s'était prononcé en faveur de la décision du tribunal. Mme Worrell se souvient que ce collègue avait dit « Même si j'étais la seule personne à aller à contre-courant, j'ai senti que je devais partager mon point de vue. » C'était « De l'inclusion à l'appartenance », un texte de Jennifer Miller, paru le 16 mai 2023, dans la presse. Une coulée toxique, un désastre annoncé. Un texte de Tristan Péloquin, paru le 15 mai 2023, dans la presse. Autorisé en 2015 par Québec, le centre de tri-recyclage GNR sur le territoire Mohawk de Kanisatake, près d'Oka, a commencé à accumuler les avis de non-conformité 2 ans après son ouverture. Le fait qu'il n'y ait aucun système de captation, traitement des eaux, est préoccupant, a noté en 2019 un agent de l'application de la loi du ministère fédéral de l'Environnement. Le site est traversé par 2 cours d'eau naturels qui se déversent dans les ruisseaux Graton et Girard, puis dans le lac des Deux Montagnes. Une section illégale bourrée d'eau toxique. En 2017, les propriétaires ont aménagé illégalement une section dans la zone sud du site où des centaines de tonnes de déchets de construction de toutes sortes ont été empilés. Au pied de cette pile, des milliers de litres de lixivia menacent de s'échapper dans l'environnement. L'eau toxique mélangée à un cours d'eau naturel. Le lixivia contient notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des contaminants associés entre autres au sulfure, à l'azote ammoniacal et à la bactériologie, ce qui peut nuire à l'être humain selon des rapports d'inspection. Cette eau toxique s'échappe par une canalisation creusée par les propriétaires du site à même la Terre afin d'isoler des eaux toxiques aux cours d'eau naturelles provenant des montagnes. L'eau contaminée se mélange à l'eau propre par cette brèche. Un plan présenté aux inspecteurs fédéraux. Des documents obtenus par la loi sur l'accès à l'information montrent que les plans d'aménagement conçus pour sécuriser le site après un déversement toxique en août 2020 ont été présentés aux inspecteurs d'Environnement Canada le 12 mars 2021. La possibilité d'installer un système de traitement des eaux au charbon a été évoquée, mais n'a pas été mise en œuvre. Lors de cette rencontre, une agente d'application de la loi s'est inquiétée de la fonte des neiges et des risques de débordement lors des pluies printanières. Une prédiction qui s'est réalisée le 3 mai et le 20 avril selon nos images aériennes. C'était « Une coulée toxique, un désastre annoncé », un texte de Tristan Péloquin paru le 15 mai 2023 dans la presse. Un système d'intelligence artificielle qui résonne un peu comme un humain. Un texte de Cade Metz, d'abord publié dans le New York Times, paru le 17 mai 2023 dans la presse. Microsoft planche sur un nouveau système d'intelligence artificielle, IA, depuis l'an dernier. Les informaticiens lui ont demandé de résoudre une énigme qui aurait dû nécessiter une compréhension intuitive du monde physique. Voici un livre, 9 œufs, un ordinateur portable, une bouteille et un clou, lui ont-ils dit. Dis-moi comment les empiler de manière stable. L'ingéniosité de la réponse a secoué les chercheurs. « Mettez les œufs sur le livre », a écrit le système d'IA. « Disposez-les sur 3 rangées en les espaçant. Attention de ne pas les casser. Posez le portable sur les œufs, écran vers le bas, clavier vers le haut. Le portable fera juste bien sur la surface formée par le livre et les œufs, et sa surface plane et rigide constituera une plateforme stable pour la couche suivante. » En lisant ce plan astucieux, les chercheurs se sont demandé s'ils n'avaient pas devant eux une nouvelle forme d'intelligence. En mars 2023, ils ont publié en ligne une étude de 155 pages arguant que le système était une étape vers l'intelligence artificielle générale, IAG, c'est-à-dire une machine capable de faire tout ce que le cerveau humain peut faire. Microsoft, première des GAFAM à oser un texte aussi audacieux, a déclenché une polémique dans l'univers techno. L'informatique était en train d'inventer quelque chose qui s'apparente à l'intelligence humaine, ou est-ce plutôt que certains des meilleurs chercheurs de l'industrie se laissent emporter par leur imagination? D'abord, j'étais très sceptique. Puis, c'est devenu de la frustration, puis de l'agacement et... peut-être de la peur. On se dit, mais d'où ça sort? Selon Peter Lee, patron de la recherche chez Microsoft. L'étude de Microsoft, intitulée « Une étincelle d'intelligence artificielle générale », est au cœur de ce que les informaticiens recherchent et redoutent depuis des décennies. Une machine fonctionnant comme le cerveau humain, voire mieux. Ça pourrait changer le monde. Mais ça pourrait être un danger. Et cela pourrait aussi n'être que du vent. Les prétentions relatives à l'IAG peuvent détruire la réputation d'un informaticien. Ce qu'un chercheur perçoit comme un signe d'intelligence peut facilement être considéré autrement par un autre informaticien. Le débat prend alors une tournure philosophique bien éloignée du laboratoire d'informatique. En 2022, Google a congédié un chercheur qui affirmait qu'un système d'IA similaire était sentient, un terme de psychologie qui décrit la capacité de ressentir des émotions, ce qui va plus loin que ce qu'affirme Microsoft. Un système sentient ne serait pas seulement intelligent, il serait capable de ressentir ce qui se passe dans le monde qui l'entoure. mais certains pensent que l'industrie a vraiment avancé, depuis un an, vers quelque chose d'inexplicable. Un nouveau système d'IA qui apporte des réponses et des idées semblables à celles d'un être humain et qui n'ont pas été programmées. Microsoft a réorganisé une partie de sa recherche afin d'inclure divers groupes chargés d'explorer cette idée. Un des labos sera dirigé par Sébastien Bubeck, auteur principal de l'article sur l'IAG de Microsoft. Depuis 5 ans, Google, Microsoft et OpenAI élaborent de grands modèles de langage, LLM pour Large Language Model. Ces systèmes peuvent passer des mois à cribler d'énormes quantités de textes numériques, livres, articles de Wikipédia, journaux de clavardage, etc. En repérant des modèles dans ces textes, ils ont appris à générer eux-mêmes du texte, travaux scolaires, poésie, code informatique. Ils peuvent même mener une conversation. La technologie utilisée chez Microsoft GPT-4 d'OpenAI est considérée comme la plus puissante. Microsoft collabore de près avec OpenAI, une société de San Francisco dans laquelle elle a investi 13 milliards de dollars. Vous écoutez, un système d'IA qui résonne un peu comme un humain. Un texte de Cade Metz, d'abord publié dans le New York Times, paru le 17 mai 2023 dans la presse. Parmi les chercheurs figurait M. Bubeck, un Français de 38 ans qui a enseigné à l'Université de Princeton. Une de ses premières demandes à GPT-4 fut la suivante. « Fais-moi la preuve mathématique démontrant qu'il existe une infinité de nombres premiers et écris-la-moi en rime. » La preuve poétique des capacités de GPT-4 était si impressionnante tant sur le plan mathématique que linguistique que Bubeck a eu du mal à comprendre avec quoi il conversait. À ce moment-là, j'ai pensé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il raconté en mars lors d'un séminaire au Massachusetts Institute of Technology. M. Bubeck et son équipe ont passé les mois suivants à documenter le processus complexe du système. Selon eux, il montre une compréhension profonde et flexible des compétences et concepts humains. Les utilisateurs de GPT-4 sont abasourdis de sa capacité à générer du texte, a déclaré M. Lee. Mais il est encore meilleur pour analyser, synthétiser et évaluer un texte. Ils ont demandé au système de dessiner une licorne avec un langage de programmation appelé TIGZ. Il a vite généré un programme capable de dessiner une licorne. Ils ont effacé la partie du code qui dessinait la corne de la licorne, puis ils ont demandé au système de modifier le programme pour qu'il dessine à nouveau une licorne. Il l'a fait. Ils lui ont demandé d'élaborer un programme pour déterminer le risque de diabète d'une personne à partir de son âge, son sexe, son poids et sa taille, ainsi que d'analyse sanguine. Ils lui ont demandé d'écrire une lettre de soutien à un électron qui serait candidat à la présidence des États-Unis dans la voix de Mahatma Gandhi, adressée à sa femme. Ils lui ont également demandé de rédiger un dialogue socratique explorant les abus et les dangers des LLM. Tout cela d'une manière semblant montrer une compréhension de domaines aussi divers que la politique, la physique, l'histoire, l'informatique, la médecine et la philosophie, tout en combinant ses connaissances. Les choses dont je le pensais incapable, il a pu les faire pour la plupart, a déclaré M. Bubeck. Certains experts en IA ont vu dans l'article de Microsoft des prétentions opportunistes au sujet d'une technologie que personne ne comprend vraiment. Ils objectent que l'intelligence générale requiert une connaissance du monde matériel que GPT-4 ne possède pas en théorie. L'article « Étincelle d'IAG » est un exemple de ce que certaines grandes entreprises font. Mettre un argumentaire de relations publiques sous la forme d'un article scientifique. dénonce Martin Sapp, chercheur et professeur à l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh. C'est écrit en toutes lettres dans l'introduction que leur approche est subjective et informelle et pourrait ne pas satisfaire aux normes rigoureuses de l'évaluation scientifique, nous dit Martin Sapp. Messieurs Bubeck et Lee admettent qu'ils ne savaient pas exactement comment décrire le comportement du système et qu'ils ont fini par intituler leur article « Étincelle d'IAG » pour frapper l'imagination d'autres chercheurs. Alison Gopnik, professeure de psychologie et chercheuse en IA à l'Université de Californie à Berkeley, affirme que GPT-4, comme d'autres systèmes du genre, est sans aucun doute puissant, mais qu'il n'est pas évident que le texte généré soit le résultat de quelque chose comme le raisonnement humain ou le bon sens. Quand on voit un système compliqué, on fait de l'anthropomorphisme. Tout le monde le fait, ceux qui travaillent dans le domaine et les autres, a affirmé Mme Gopnik. Mais toujours comparer l'IA et les humains comme dans une compétition de jeux télévisés, ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question. C'était un système d'IA qui résonne un peu comme un humain. Un texte de Cade Metz, d'abord publié dans le New York Times, paru le 17 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.